L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la
moutarde. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver après cette longue absence. Tout est beau dans les nouveaux locaux de Divergence. Némi Courbéry, la Régie Saint-Ille, c'est le lieu idéal pour cuisiner les auteurs. Un menu de qualité vous a été concocté, puisque nous démarrons cette seconde saison radiophonique avec 3 émissions de rentrée littéraire. Prévoyez des jeans taille large, vous allez dévorer des livres.
Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Elle se dit, ma foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix.
Vous écoutez L'Épluche Libre et j'ai la chance pour inaugurer cette seconde saison de recevoir pour la seconde fois le grand Nico Nalinten.
Bonjour.
Bienvenue à nouveau.
Merci.
Donc ces nouveaux locaux, ça vous plaît?
Je suis ravi d'être là. Et effectivement, c'est beaucoup plus grand que la dernière fois.
Oui, c'est lumineux. Enfin bref, vous n'avez pas l'image, vous avez le son, mais...
Vous pouvez nous croire.
Voilà, vous pouvez nous croire sur parole. Comment allez-vous?
Eh bien, très bien.
Très bien. Un livre vient de paraître le 17 septembre dernier.
Oui, c'est ça. Oui. Une nouveauté. Donc forcément... pas mal d'émotions.
Oui.
Et je suis très heureux d'être ici pour en parler peut-être un petit peu.
Oui, merci. Mais on va en parler justement. Donc il fait partie de notre sélection rentrée littéraire. Voilà.
D'accord.
Donc rentrée littéraire sombre, thriller historique ouais. En tout cas pour cette rentrée. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre ouvrage?
Oui, c'est un ouvrage, ça parle... notamment des enfants volés sous l'ère franquiste, en fait. Et c'est une histoire donc, qui... Il y a plusieurs fils d'histoire, en fait, qui s'entremêlent. On a un fil historique qui part de la guerre civile espagnole et qui remonte jusque dans les années 90. Et ensuite, on a une première partie d'histoire qui se déroule en 1987 et une deuxième en 2023. Et tout ça va se confondre. Et pour un final que j'espère détonnant.
Donc, le livre s'intitule « L'Évangile des ombres ». Il a paru chez HarperCollins Collection Noire. C'est comme ça que,
oui, tout à fait.
Qu'on doit dire. Vous êtes content de ce démarrage pour le livre?
Je suis très content, très satisfait. HarperCollins, c'est une maison d'édition fantastique avec des gens très motivés. Je suis porté par une énergie, une belle énergie, et ça augure de belles choses. Voilà, super, j'en suis très heureux.
Super, ça fait plaisir à entendre. Donc, vous présentiez donc ce thriller comme relatant l'histoire, une partie en tout cas de l'histoire du franquisme. Donc, on va parler malheureusement de personnes emprisonnées sans motif légitime aucun. On va parler d'enfants volés aussi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les chiffres à ce sujet?
Alors, les chiffres sont assez étourdissants, pour pas dire ahurissants. On parle de 300 000 enfants volés. Alors, il faut savoir que le vol des enfants a commencé pendant la guerre civile espagnole qui s'est déroulé de 1936 à 1939 et s'est étendu jusqu'à la mort de Franco. Donc Franco il est décédé en novembre 75 et à partir de là on pouvait imaginer que ça allait s'arrêter, mais non, ça a perduré jusque dans les années 90 et chose incroyable, ça a en plus débordé la frontière entre la France et l'Espagne. Et entre l'Espagne et la France, pardon. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait moins. C'est-à-dire que après la mort de Franco, c'est quelque chose qui a perduré et qui s'est transformé en véritable trafic d'êtres humains, où tout le monde était mêlé. C'est-à-dire l'Église, les hôpitaux. Enfin, c'était quelque chose de très établi.
Et pourquoi avez-vous choisi cette période, ce sujet historique pour votre roman ?
Alors moi, je suis un peu parti à l'envers, en fait. Quand j'ai fait des recherches pour mon roman, j'avais le lieu, c'est-à-dire les Hautes-Pyrénées. J'ai de la famille qui a une grange qu'ils ont retapée dans les montagnes. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Un lieu un peu sauvage, j'ai trouvé ça très chouette. Mais en faisant des recherches sur les environs, je suis tombé sur l'histoire d'une femme qui... s'est persuadé de s'être fait voler son enfant à la naissance. Et ça, ça se passait côté français. Elle expliquait qu'en fait, à l'accouchement, elle avait entendu son enfant pleurer. Une nonne est rentrée dans la salle d'accouchement, a pris l'enfant et est partie. Et quand cette mère a demandé à voir son enfant, on lui a dit « c'est pas possible, il est mort ». Et elle a demandé à voir le corps. On lui a dit « c'est pas possible, il est déjà enterré ». Donc ça, j'ai trouvé ça absolument troublant et... En continuant de fil en aiguille, mes recherches m'ont mené jusqu'à la guerre civile espagnole, où en fait, c'est là où ce trafic d'enfants prend racine, en fait.
D'accord. Donc c'est... Pardon du terme, hein, j'aime pas du tout cette expression, mais c'est ce fait divers qui vous a inspiré.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est là-dessus que votre créativité a commencé à se développer, vous avez fait des recherches.
Oui, beaucoup de recherches et je suis tombé, donc il y a un livre magnifique qui s'appelle « Les enfants volés du franquisme » et qui parle notamment, alors des enfants volés bien évidemment, mais de ces femmes qui ont été emprisonnées pour des durées ahurissantes, là aussi, pour 30 ans, alors qu'elle n'était que la femme d'eux, elle n'avait en soi rien fait. Elles étaient condamnées à mort, et puis dans des prisons absolument abominables. Et donc le livre parle d'une femme qui s'appelle Trinidad, donc qui a une vingtaine d'années au moment de la guerre civile et qui se trouve emprisonnée dans plusieurs prisons, dont une notamment qui s'appelle la prison de Saturaran, qui était au Pays Basque, qui est restée ouverte en tant que prison pendant 6 ans environ, de 1938 à 1944, et elle a été rasée en 1944, détruite. Tellement les conditions de vie étaient déplorables. Enfin, il y a eu, on parle de 150 femmes mortes, alors fusillées ou mortes de mauvaises suite à de mauvais traitements, de maladies, et une cinquantaine d'enfants aussi. Hein.
D'accord. Voilà.
Ouais. Donc c'est quand même assez lourd. Alors il faut savoir que le livre ne parle pas que de ça non plus. Hein. C'est très lourd quand j'en parle, mais c'est le fond historique sur lequel je me suis appuyé pour bâtir mon histoire.
Très bien. Et parlons justement, c'est ce qui va nous intéresser un petit peu plus dans cette seconde saison de L'Épluche Libre, donc du processus créatif pour vous, notamment du contexte dans lequel vous créez. Est-ce qu'il y a un lieu ? Est-ce qu'il y a un espace sonore, un espace musical ?
Alors un lieu, oui, mon bureau chez moi, à la maison. J'ai essayé d'écrire... dans le train, ça marche pas.
D'accord.
J'ai relu le lendemain, c'était nul. J'avais tout effacé, quasiment. J'aime bien être dans mon bureau, dans mon cocon, dans mon univers avec ma déco, mes panneaux de liège avec mes petits post-it et tout ça. Ça me convient bien, ça.
D'accord. Donc vous avez votre safe place.
C'est ça, exactement.
Et quant à l'environnement sonore, comment ça se passe ? Est-ce que vous travaillez en musique ou pas du tout ?
Ça dépend des fois. Les recherches, pas du tout. L'écriture, parfois. Et quand je mets de la musique, c'est la plupart du temps des bandes originales de films ou de séries. Le plus important, c'est que ce soit sans parole, juste de la musique, pour être que ce soit le plus immersif possible.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques séries ou quelques BO ?
Oui, alors il y a Le Village, il y a The Prisoners, il y a une série qui s'appelle Dark, qui est absolument fabuleuse, les trois saisons. L'univers musical de Dark est juste fantastique. quoi d'autre, Oppenheimer en film par exemple, ce genre de choses.
Voilà. Toujours des choses quand même très costaudes, non?
Ouais, ça dépend, ouais. ça dépend. Le Village, par exemple, c'est quelque chose d'assez léger, mais on sent que il y a une atmosphère lourde, un peu pesante, mais la musique est, est bizarrement assez, assez légère, mais laisse imaginer plein de choses, j'aime bien.
Et est-ce que vous avez remarqué une certaine influence de la musique ou de l'ambiance sonore sur ce que vous écrivez? Est-ce que dans le train, peut-être que c'est les sons qui vous ont gêné, je me pose la question, ou si vous avez une musique entraînante, est-ce que ça change votre rythme d'écriture? Est-ce que ça change quelque chose?
Non, disons que vraiment ça accompagne... En fait, quand je décris une scène, je suis la plupart du temps dans la scène, je la vis, et donc avoir une musique qui m'accompagne et qui colle au mieux à la scène, ça ne fait que l'embellir. Enfin, ce que j'ai sous les yeux, voilà, prend un peu plus vie, et c'est vrai que ça dynamise l'écriture, ça me permet d'aller un petit peu plus vite dans l'écriture, d'accord. Et encore que, bon, après, je relis, je coupe, oui. J'enlève.
C'est une discipline aussi, je suppose.
Oui, oui, bien sûr.
Ok. Pour nos chers auditeurs, un petit extrait, donc un petit medley, composé par la régie, de ce qu'a l'habitude d'écouter Nicolas Newton.
Thank you.
Vous êtes de retour sur L'Épluche Livre, nous sommes en compagnie de Nicolas Nitten et nous avons donc eu la chance de nous plonger quelques minutes dans l'atmosphère musicale qui lui est créatrice. Par rapport justement à cette création, à cette nouvelle création en tout cas, nous l'avons vaguement évoqué tout à l'heure, vous avez changé de maison d'édition donc pour votre quatrième opus. Pourquoi ce choix ?
Alors c'est plutôt une rencontre. Quand j'ai eu la chance l'an dernier de recevoir le prix de l'embouchure qui m'était remis par les policiers toulousains et le jour où j'ai appris que j'étais lauréat, j'ai croisé la route de Gwenaëlle Denoyer qui était éditrice au Seuil, qui est devenue éditrice chez HarperCollins. Mm-hmm. On a discuté, on a échangé un petit peu. Et assez rapidement, elle m'a dit, il faudrait peut-être qu'on se parle.
D'accord. Voilà. Donc c'est une histoire professionnelle, mais c'est aussi une histoire d'amitié.
Oui, d'amitié. En fait, le courant est bien passé. Puis ce qu'elle comptait mettre en place dans cette nouvelle maison d'édition pour elle, elle me voyait bien, elle voyait qu'il y avait quelque chose à faire pour moi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
D'accord. Elle travaille depuis peu chez HarperCollins.
C'est ça, elle vient d'arriver en fait.
D'accord, très bien. Donc, en parlant de profession, vous êtes auteur, bien sûr, mais ce n'est pas à temps plein.
Non, malheureusement.
Je crois savoir que vous êtes aussi informaticien.
C'est ça, exactement.
Et moi, ça m'arrange, puisque j'ai quelques questions à vous poser, si vous êtes d'accord, notamment sur...
Alors, s'il faut réparer l'imprimante, je ne suis pas sûr d'être... Non.
Ah bon, dommage. Bon, tant pis. tant pis. Il faudra quand même me dire le pourquoi de éteindre et rallumer, réparer les ordi quand même.
Hein. Je ne sais pas du tout.
Ouais. Je ne vous crois pas. Je vous aurai à l'usure sur cette question-là.
Certainement.
Je pense. Non, sinon, c'est un très bon prétexte pour moi pour aborder le sujet de l'IA générative, donc, qui est un vaste sujet, notamment pour les artistes, les auteurs, les illustrateurs, les traducteurs aussi, bien sûr, les correcteurs. Donc, tous ces métiers de la chaîne du livre, des métiers qui sont parfois invisibles, invisibilisés. Je crois savoir que HarperCollins a signé justement un contrat avec une entreprise dont le nom est caché pour justement aider à nourrir une nouvelle forme d'IA générative. Est-ce que vous êtes au courant de ce sujet ?
Alors non, j'ai pas été au courant. J'ai pas été mis au courant par HarperCollins. Je l'ai lu dans la presse. Et je n'ai pas été contacté pour cela, et de toute façon je refuserais catégoriquement que mes textes soient avalés par une IA, mais bon, je ne me fais pas trop d'illusions non plus, ils ont certainement déjà été avalés par une IA, donc...
Oui,
bon.
Pas forcément par la voix de votre éditeur, non. Mais par d'autres voix.
Voilà, malheureusement.
Sur le contrat, rien ne stipule...
Non, rien du tout.
D'accord. Ok. Et justement, par rapport à l'IA, comment vous vous positionnez avec votre double casquette auteur informaticien sur ce sujet-là ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des voies, au contraire, d'amélioration possible et de bien-être pour chacun ou...
Alors forcément, je suis inquiet, mais ma double casquette me permet de relativiser un petit peu. Mm-hmm. Alors... Je vais d'abord parler de mon métier de responsable d'un pôle développement. L'IA est un outil assez formidable pour nous, pour les développeurs, parce qu'il nous permet de gagner un temps considérable en expliquant une IA un problème, en contextualisant correctement le problème, en donnant un maximum d'informations. L'IA arrive à fournir des réponses qui sont assez bluffantes, qui nous permettent surtout de gagner un temps précieux.
D'accord.
En revanche, pour tout ce qui est, voilà, pour tout ce qui est création, là, je suis beaucoup plus sceptique. C'est-à-dire que il faut savoir que une IA n'invente rien, ne crée rien. Mm-hmm. La création est purement humaine, en fait. Et je pense que c'est se leurrer que d'imaginer qu'une intelligence artificielle va pouvoir créer du contenu, du texte à partir de textes, d'autres textes. En fait, il faut bien comprendre que l'IA, c'est des probabilités et des statistiques, c'est tout. Donc, quand vous lui posez une question, la plus contextualisée possible encore, en expliquant exactement ce que vous souhaitez obtenir, l'IA, son job, son rôle, ça va être de répondre au mieux à votre question, avec le plus haut niveau de probabilité, en mettant les mots les uns à la suite des autres, afin qu'ils correspondent le mieux à votre attente. Okay. Et donc, et ça, pour ce faire, elle va se baser sur des bases de données gigantesques qui ont été nourries par des millions de textes qui, à travers le monde. Mais elle ne va rien créer, parce que quand elle vous parle, et on a cette impression, c'est-à-dire que quand on dialogue avec une IA, on a vraiment l'impression d'avoir un humain en face, quelqu'un qui a un raisonnement, qui tient un raisonnement, alors que c'est faux. Tout ce qui est, toutes les phrases qu'elle dit, elle n'a pas conscience de les dire. Voilà, c'est important de rappeler
c'est
ça.
Important,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création, il n'y a juste que des probabilités et des statistiques. Donc, en partant de là, il n'y a pas de création. On s'appuie juste sur des raisonnements, des discours, des textes qui existent déjà, qu'on agrège peut-être de manière différente, mais encore une fois, pas de création. C'est juste une réponse qui va correspondre le mieux à la question qui lui est posée.
D'accord, très bien. Et par rapport aux droits d'auteur, donc, est-ce que là-dessus vous vous positionnez ? Les IA se nourrissent de ce qu'elles vont trouver, se nourrissent. Déjà, on les humanise, hein, c'est terrible. Hein.
C'est ça,
quel est le terme technique d'ailleurs par rapport à ça ?
Eh bien, c'est se nourrir certainement.
C'est se nourrir,
oui,
c'est
vrai. On nourrit une IA.
D'accord. Bon, donc les IA sont nourries. Déjà, on va peut-être distancier. Voilà, qui est acteur, qui est sujet. Donc les IA sont nourries de ce qu'elles trouvent, des contenus. Alors ça aussi c'est terrible dans le modèle créatif de parler de contenu.
Ouais,
donc d'œuvres d'art aussi, sans qu'il y ait regard aujourd'hui de droit d'auteur, mis à part une législation d'opt-out, donc qui est de vraiment à l'échelle, sauf erreur, c'est à l'échelle européenne que ce droit a été donné. Donc il faut vraiment que pour chaque IA, les auteurs demandent à ce que ce soit retiré. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Et quelle solution pensez-vous, quel avenir on pourrait envisager de un peu
Alors,
bien
de toute façon, sans légiférer, ça va être très très compliqué. Mmh. Donc l'Europe, la Commission européenne a déjà commencé à se pencher sur le sujet de manière sérieuse, en mettant un petit peu des garde-fous. Il faut savoir que l'Europe et au monde, on est les seuls à faire ça. C'est-à-dire qu'en États-Unis, Chine, j'en parle même pas, il n'y a aucun droit. Et c'est en ça, là aussi, qu'il faut faire attention. Quand on parle d'IA, il y a IA et IA.
Mm.
C'est-à-dire que il y en a une en France qui s'appelle Mistral, qui est une IA, voilà, on peut pousser un cocorico, qui est une IA française, et qui a surtout l'avantage de garantir la souveraineté de nos données.
D'accord.
C'est-à-dire que à partir du moment où vous nourrissez, vous mettez un texte dans cette IA, elle reste, elle reste en Europe, elle reste en France, elle reste sur des data centers qui sont positionné à des endroits bien spécifiques et on sait où. Si vous nourrissez ChatGPT, demain, votre texte ne vous appartient plus.
Mmh.
C'est-à-dire que le Patriot Act est fait de telle façon qu'ils peuvent se saisir de absolument tout et s'en servir sans vous demander votre accord ou pas. Donc, là aussi, il y a encore une fois, il faudrait se tourner plutôt vers des modèles européens, voire français, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sûr. Et après, il faut légiférer. C'est-à-dire que voilà, c'est contraignant, c'est sûr, mais on peut pas se permettre de supprimer les auteurs, voilà, tout simplement parce que ou les illustrateurs, parce que mais effectivement, quelques éditeurs ont dans le long, on se dit que c'est finalement un maillon de la chaîne qu'on peut remplacer assez facilement, enfin en apparence, parce qu'une fois, encore une fois, l'IA ne crée rien, elle ne fait qu'agréger des contenus déjà existants. Donc ça ne ferait qu'appauvrir le champ de notre, culturellement parlant, ça serait assez terrible.
Oui, et puis il existe déjà, alors on ne les citera pas, des groupes de musique et des ouvrages qui ont été entièrement créés, créés. Généré de cette manière. Il y a des couvertures aussi, des ouvrages.
Enfin, des illustrations.
Nous, en librairie, on fait très très attention au copyright, donc aux droits qui doivent apparaître obligatoirement sur la couverture. Si les droits ne sont pas là, s'il n'y a pas de droit à l'image, quel qu'il soit, c'est pas bon signe du tout. Ouais. Ok, donc si je comprends bien, vous pensez quand même qu'en Europe, on est protégé en tant que artistes, mieux qu'ailleurs dans le monde.
Mieux qu'ailleurs, mais attention, on est protégé de loin, on va dire.
Oui, c'est un début.
Tous les textes qui sont déjà passés sur l'IA, quid des droits d'auteur, on n'en sait rien, en fait. Un petit malin qui va vouloir écrire un livre à partir de l'IA va certainement piocher dans tout un tas d'œuvres existantes sans que les auteurs dont il utilise les textes soient déjà ne serait-ce que cités ou touchent quelconque droit avec ça, quoi.
D'accord, donc il y a une petite graine de quelque chose, mais on est loin.
Et puis ce qui est terrible, c'est que ça avance à peu près 10 fois plus vite que les lois.
D'accord.
Donc demain, tous les modèles vont encore changer, après-demain encore, et puis les lois, les premières lois ne seront même pas finies d'écrire. Donc c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on a un décalage qui est phénoménal, quoi.
D'accord. Et une solution pour éviter ce décalage, vous pensez ?
Ça me semble bien compliqué, sincèrement, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on s'en empare tous, qu'on y soit très attentif et... Il faut faire attention à ça, il faut éduquer les gens, si je pense. Ça passe par l'éducation, beaucoup.
Et ça passe par la littérature.
Aussi, beaucoup.
Moi, j'en suis convaincue, ça passe par les librairies, ça passe par les auteurs, par aller à la rencontre des personnes. Et justement, pour terminer cette émission, vous êtes venue à la librairie le 20 septembre dernier.
C'était
très sympa, merci beaucoup. Quelles sont les prochaines rencontres prévues pour vous ? Est-ce qu'on peut vous rencontrer dans les mois, les semaines à venir ?
Alors oui, je vais pas mal bouger dans les mois et les semaines à venir. Au niveau des salons, ça va commencer par Bruxelles fin octobre. Ensuite, il y aura la foire de Brive début novembre. Ensuite, je vais enchaîner avec Noir Romesson, qui se situe du côté de Paris, si ma mémoire est bonne. Ensuite, il y aura 36 Quai des Cévennes, au Vigan.
Qui est prévu pour quand ?
Celui-ci, ça sera fin novembre.
Fin novembre.
Et je crois que troisième semaine de novembre. Il y en a encore un autre, mais j'oublie, je suis désolé.
Est-ce qu'on peut mettre un lien peut-être dans le résumé
Bien sûr. De toute façon, on va republier quelque chose avec HarperCollins justement pour relister toutes les dates parce que ça a bougé. Il y aura des signatures à la Fnac de Montpellier en décembre. Des présentations dans la bibliothèque, d'autres librairies, à Sommières notamment. Il y a beaucoup de choses, mais il faut lister tout ça correctement. Et puis ça reprendra l'an prochain.
Très bien, moi dis donc, c'est super. Je suis très contente pour vous, en tout cas, c'est bien mérité. N'hésitez pas, chers auditeurs, à lire l'Évangile des Ombres. On y apprend plein de choses, c'est plein de rebondissements. Il y a un petit côté nostalgie aussi avec le personnage, donc les personnages qui vivent dans les années 80. Il y a un petit côté,
qui était super à écrire.
Un petit côté doudou, ça se sent. Donc nous mettrons dans le résumé du podcast sur divergence.org. Nous mettrons le lien de vos prochaines rencontres, de vos prochains salons. Et je crois que c'est déjà l'heure de nous quitter.
Eh bien, c'est pas suite.
Mais oui. Merci pour tout.
Oui, merci pour votre invitation.
Merci beaucoup et à très bientôt, chers auditeurs, chères auditrices, sur L'Épluche Livre.
L'Épluche Livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Lui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre.